Mais oui, mais c'est, il n'y en a pas assez parce que c'est pour qu'une MAP se crée, il faut qu'il y ait des consommateurs, citoyens.
Here's a song that comes from Tanzania.
Bonjour auditrices et auditeurs de Radio Gellert pour notre émission Livres et Amis du mercredi 16 novembre. Au micro Françoise et Dominique, à la technique Camille et Johan, que je vois là-bas derrière la vitre et ce sont donc nos jeunes débutantes et on les remercie. Je vous avais promis de vous emmener en Haïti, alors allons-y, partons pour cette moitié d'île de la Caraïbe qui, à l'inverse de bien d'autres, ne fait pas toujours vraiment rêver. Mer bleue et cocotiers, oui, certes, mais désastre naturel et extrême pauvreté, hélas, à laquelle l'instabilité politique ne permet guère de porter remède. Aujourd'hui, nous sommes en Haïti avec Émilie Prophète, une autrice dont nous avions déjà partagé le talent à l'automne 2020 avec Un ailleurs à soi. Son roman le plus récent, pour lequel je l'ai rencontré au Festival America il y a 2 mois, c'est Les Villages de Dieu. Villages de Dieu dont Dany Laferrière, le grand écrivain haïtien reconnu sur le plan international, a dit « C'est un roman exceptionnel, le meilleur livre sur Haïti, le plus fort, le plus juste et peut-être le mieux écrit. » Alors, voyez, Dany Laferrière ne ménage pas ses compliments. Et c'est vrai que Émilie Prophète, qui a maintenant plus de 50 ans, est une journaliste et écrivaine tout à fait reconnue. Ses romans sont en effet magistraux et donnent une image de son île, pas toujours très flatteuse, mais extraordinaire. Elle a été nommée en janvier 2022 ministre de la Culture du gouvernement d'Haïti, mais elle continue bien sûr ses différentes tâches pour faire connaître son île, les difficultés et aussi le rayonnement culturel, puisque la culture à Haïti, c'est une des grandes ressources et c'est ce qui continue à faire vivre l'île, peut-être pas matériellement, mais en tout cas mentalement. Avant de vous présenter les Villages de Dieu, je tenais tout de même à vous parler des festivals de cinéma de notre bonne ville de Marseille. D'abord, Ciné Horizontes, festival de cinéma hispanique de Marseille, donc qui a lieu tous les ans, qui se tient cette semaine et jusqu'au 24 novembre. Et puis, comme tous les ans aussi, le Festival des films de femmes méditerranéennes, avec la soirée inaugurale demain soir jeudi, au Mucem. Un vrai film féministe de Anna Salzberg qui s'appelle « Le jour où j'ai découvert que Jane Fonda était brune ». Donc effectivement, vous voyez, si Jane Fonda est brune, n'est pas blonde, ça remet le monde en question et ça fait tourner autrement la planète des femmes. Donc ça, c'est demain soir au Mucem. Et côté femme encore, mais côté livre cette fois, une présentation à ne pas manquer, mardi soir 22 novembre à 18h, présentation du dernier livre de Robert Mancherini, écrit donc par Mancherini avec Anne Blanchet, sur Bertie Albrecht. Je crois que ça s'appelle tout simplement Bertie Albrecht. Et donc, ce dernier livre de Robert Mancherini, la présentation en sera faite mardi soir à 18h au Musée d'Histoire de la ville de Marseille. Voilà pour notre tour d'horizon local et culturel. Regarder les sites internet pour repréciser tout cela, bien sûr. Et puis repartons pour Haïti, Haïti chérie, comme dans la chanson de Harry Belafonte ou surtout de Jacques Sauvergeon que nous écouterons tout à l'heure. Haïti chérie, mais bien malmenée. Un des joyaux, en effet, de la francophonie, puisque ses auteurs sont reconnus partout, mais une terre bien difficile à vivre pour la plupart de ses habitants. Nous rencontrons des exilés haïtiens à Paris, à New York, à Montréal et même au Chili depuis bien des années. Émilie Prophète, avec les Villages de Dieu, a choisi de nous montrer sans phare la réalité de la vie quotidienne des plus pauvres habitants de l'île. L'exemple qu'elle recrée pour nous, sur des éléments hélas bien réels, c'est celui de Célia, Cessez la flamme, dans sa cité, son bidonville, accroché dans les hauteurs de Port-au-Prince, la cité de la puissance divine. Célia a 20-22 ans, son quotidien est rythmé par les tirs d'armes automatiques, des gangs qui s'affrontent entre cités, souvent en pleine rue. Mais grâce à son portable, elle devient influenceuse et son rapport aux réseaux sociaux est tout à fait étonnant. Le roman s'ouvre par la mort de la grand-mère de Célia, qu'elle appelle Grand-Ma ou Ma, et cette mort a été causée justement par la peur des guerres de gangs.
Je n'avais pas peur. J'étais habituée au bruit des armes. J'ai grandi dans cette cité où jamais il n'y avait eu de trêve, où la mort circulait à midi comme à minuit. Grand-ma était morte, il y a 9 mois, de peur. C'était un soir particulièrement difficile d'un dimanche qui avait calmement commencé, jusqu'à ce que la rumeur circule que des gars du gang de Mackinson avaient sifflé sur le passage de la copine d'un des membres influents de celui de Freddy, alors qu'elle revenait de l'église. Les deux gangs qui faisaient la loi dans la cité n'étaient jamais à court de provocations mutuelles, mais il n'y avait jamais eu, jusqu'à ce dimanche soir, d'affrontement direct. Je me rappellerai toujours les yeux exorbités de ma grand-mère, ses mains qui serraient fort mon poignet, et moi qui criais « Grand-ma, tu me fais mal !» Elle avait dit dans un râle « Cessez, Célia, mon enfant, petite mouenne, cessez, je sens que mon cœur va exploser, je vais mourir !» Je dormais dans le même lit que grand-ma. Depuis toujours, j'ai su tout de suite qu'elle était morte. Elle était devenue raide, froide. Je ne pouvais pas, comme je l'avais toujours fait, mettre ma jambe droite sur elle pour m'endormir. Je m'étais mise à lui parler. Je ne me souviens pas très bien de ce que j'ai dit, sauf des prières qu'elle m'avait apprises. Je ne pouvais pas entendre le son de ma voix. Ça tirait de partout, avec des armes automatiques, et le tintamarre s'était poursuivi jusqu'à l'aube. Je suis allée frapper chez voisine Soline. Elle avait accepté de me suivre. Elle me bousculait presque pour me faire avancer plus vite. Pour elle, je n'étais qu'une menteuse. Comment avais-je pu prétendre que grand-ma était morte alors qu'elles étaient à la messe ensemble hier matin et qu'elle allait très bien? Elle avait hésité sur le pas de la porte, ses gros seins flottant dans une chemise de nuit à fleurs. Comme toute la cité, elle n'avait pas dormi. Ses yeux étaient cernés. Elle avait enjambé d'un pas décidé le petit muret de 10 centimètres que grand-ma avait fait dresser entre la petite galerie et la chambre, où l'on accédait directement, afin que l'eau ne rentre plus dans la maison quand il pleuvait. « Elle est vraiment morte », avais-je réussi à balbutier alors que nous entrions dans la pièce. « Tais-toi, petite », avait-elle répondu en ouvrant grand les yeux. « Christa, Christa », avait-elle dit avec vigueur en touchant le front et le cou de grand-ma, avant de lâcher un cri. Des larmes coulaient sur ses joues rondes. Je m'étais mise à pleurer aussi et commençais à pousser des cris comme cela se faisait quand quelqu'un décédait dans la cité. Voisine Soline avait appliqué une main épaisse et rêche sur ma bouche et m'avait dit dans un sanglot « Petite, tu veux réveiller Freddy et ses hommes ? Ils dorment. Ils viennent de se mettre au lit. À ton âge, tu devrais comprendre les choses. » Un grand calme était retombé sur la cité. Le gang de Freddy avait vaincu celui de Mackinson. On parlait d'une 30aine de morts, de redditions complètes, d'exécutions sommaires des récalcitrants qui n'avaient pas voulu déposer les armes. Un seul gang, une seule base, comme il disait, ferait désormais la loi dans la cité de la puissance divine, celui de Freddy.
À partir de la mort de grand-ma, Célia, qui raconte son histoire à la première personne, revient sur son enfance, sur la mort de sa mère à 20 ans, alors qu'elle-même avait 2 ans, à cause du sida. Elle montre les fractures sociales avec, par exemple, l'image un peu idyllique que grand-ma se fait des médecins. Et le reste du roman se construit de la sorte, avec l'alternance d'un présent difficile et d'un passé émaillé de souvenirs plus ou moins affreux, plus ou moins souriants aussi, quelquefois. Voilà, Célia revient au présent. Écoutons. Les jours qui suivirent le décès de grand-ma furent terribles. Les affrontements avaient repris le soir même, cette fois-ci entre Freddy et des dissidents de sa propre base. Le quartier était cloîtré, quasiment aucune voiture ne passait sur la grand-rue. Je dormais sous le lit. Tonton Fredo était resté sobre pendant 4 jours. Ses fournisseurs d'alcool arrangés ne sortaient pas leur commerce. Au bout du 4e jour, les tirs cessèrent. Freddy avait tué de ses propres mains les traîtres qui n'acceptaient pas son autorité. « Une balle dans la tête, pas !» racontait Pierrot, excité et admiratif. « C'est un vrai chef, solide !» répétait-il après chaque phrase. Il voulait que tout le monde écoute l'histoire, et aucune des versions n'était la même. Elles étaient au fur et à mesure amplifiées, regorgeant de détails féroces. Plus c'était cruel, plus la légende de Freddy serait macabre, plus il serait respecté, parce qu'il savait que de l'autre côté de la ravine, il y avait encore des velléités de rébellion. Pierrot était une sorte de porte-parole de Freddy. Il était fidèle et passionné. J'avais cherché partout dans la commode de la maison des choses à vendre pour payer les funérailles de grand-ma. Je n'avais pu trouver que 16 000 gourdes. C'était loin d'être suffisant pour les funérailles. Pierrot était un garçon sérieux, grand-ma le complimentait pour cela. Il revenait payer ce qu'il achetait, pas comme tous les voyous qui venaient vous voler le fruit de votre travail et à qui on ne pouvait même pas refuser de vendre de peur qu'ils vous interdisent de continuer le business, qu'elle disait. Il n'avait pas su pour grand-ma, et quand il était venu le samedi suivant, quand il avait appris, ou quand il avait été étonné de ne pas trouver Christa sur la petite galerie affairée derrière son énorme chaudière, de riz mélangé avec des haricots rouges qui sentaient tellement bon, la banane plantain frite et le pliclise, sans doute le meilleur de la ville, il avait frappé et j'étais sortie lui parler. Il avait eu l'air triste, sincèrement. « Je vais en parler au chef », avait-il dit sérieusement. « Le chef, il acceptera de t'aider ». Voilà, donc ce sont les funérailles de grand-ma payées par Freddy, le chef du gang. Et on va vous lire un certain nombre de passages sur les funérailles de grand-ma.
La veillée ainsi que les funérailles de grand-ma furent grandioses. Freddy avait tout payé. Il s'était même fendu d'un discours lors de la veillée dans lequel il accusait Mackinson d'avoir provoqué la mort de ma grand-mère qu'il prétendait avoir vengée. Il avait toujours en main, comme un objet fétiche, un Glock 40, et 2 de ses adjoints le suivaient de près, chacun armé d'un fusil d'assaut semi-automatique AR-15. Freddy était mince et grand. Il parlait lentement, et on ne répondait que pour l'approuver. Personne n'osait contredire Freddy. Freddy avait désigné 2 soldats pour s'occuper de tout, Pierrot et Joël. C'est Pierrot qui avait été apporté le 80 000 gourdes à l'entreprise funéraire, la Grâce Divine. Et Joël s'était chargé d'aller acheter l'alcool pour la veillée. Yves Rose avait proposé de faire du thé et du café à ses frais. Livio avait animé la soirée. C'était un animateur professionnel de veillée. Il enchaînait les gags et le public était bon. Les gens riaient fort avant même qu'ils aient compris ce qu'ils voulaient raconter. Ils étaient venus nombreux. C'était pour la plupart des clients de grand-ma et des voisins. Fredo dormait sur sa chaise. Il avait déjà bu une bouteille entière de rhum Barbancourt et je l'avais vu en cacher 2 dans sa chambre tout de suite après que Joël eut apporté les caisses dans l'après-midi. Le vent faisait vaciller les flammes des petites lampes artisanales à kérosène qui éclairaient l'assemblée. Freddy avait fait barrer les 2 côtés du corridor afin qu'aucune motocyclette ne vienne perturber la cérémonie. C'était par pure forme. Aucun inconnu n'aurait osé s'y aventurer en sachant qu'il était là. Ils avaient pu fermer les yeux de Ma, mais la frayeur se voyait encore sur son visage. Elle portait un tailleur blanc impeccable, celui que j'avais trouvé accroché à un cintre dans son placard, son seul vêtement pour les grands jours. L'inhumation de grand-ma avait eu lieu dans le grand cimetière de Port-au-Prince. Je boitillais affreusement, un de mes talons s'était cassé et j'avais mal aux pieds. Je n'étais pas habituée à porter des chaussures à talons hauts.
Oui, c'était donc la scène de rassemblement, de la veillée et des funérailles qui ont donc lieu grâce au chef de gang. Et après cette scène, Célia revient sur le passé. Il y a un flashback assez long sur justement Tonton Fredo, donc il vient d'être question. Tonton Fredo, c'est le fils Benjamin de grand-ma. Et on va apprendre que Tonton Fredo est un jour parti pour les Jeux Olympiques. Tonton Fredo buvait moins depuis la mort de grand-ma. Il passait beaucoup de temps dans la chambrette à regarder le plafond, semblant vivre un interminable deuil. Il mangeait à peine. Il ne répondait jamais quand je frappais à sa porte. Je rentrais quand même et il me regardait avec un sourire faible qui me faisait du bien. J'avais du mal à imaginer Tonton autrement que dans ce grand corps amaigri, abîmé par l'alcool. Pourtant, il avait été un sportif, un grand sportif dans sa jeunesse. Il avait fait de la course d'obstacles, du 400 mètres haies. Un membre de la Fédération d'athlétisme était même venu chez nous une fois, disait grand-ma. Il lui avait parlé des performances de son fils dans les courses. Elle était fort gênée, elle ne recevait jamais de personnes étrangères dans la cité. Il n'y avait pas l'espace pour cela. Il lui avait fallu pousser de côté les chaudières, les casseroles, la grosse pile de bananes plantains qui se trouvait sur la petite terrasse pour faire de la place pour les pieds du visiteur, alors qu'il était installé dans la chaise à bascule. Fredo était mineur. Il fallait que sa mère autorise le représentant à l'emmener participer aux Jeux Olympiques qui avaient lieu cette année-là à Atlanta, aux États-Unis. Il avait aussi expliqué à Ma que ce seraient les 100e Jeux. Elle n'avait pas compris ce que la Sella voulait dire. Non, c'était le centenaire. Elle ne savait pas ce que c'était que les Jeux Olympiques. La seule chose qu'elle avait retenue, c'était que son fils, Fredo, allait partir, prendre l'avion. Et elle en était très émue. Elle qui s'emportait contre lui parce qu'il négligeait ses leçons pour aller comme un fou, risquer de se faire écraser par une voiture ou faire une chute irréparable. Elle s'était signée et avait dit « Gloire à Dieu !» en présence du représentant du comité olympique haïtien, qu'elle remerciait chaleureusement en faisant son possible pour avoir l'air d'une dame correcte afin que le monsieur comprenne que Fredo avait une mère comme il faut. Grand-ma s'était mise depuis cette visite à raconter à tous ceux qui venaient lui acheter de la nourriture, tous ceux qui fréquentaient la même église qu'elle, que son fils allait partir aux États-Unis, représenter son pays aux Jeux olympiques, qu'elle ne savait pas trop s'il allait revenir, peut-être allait-il prendre la décision de faire des études dans ce beau pays, continuait-elle avec un soupir, tout à fait consciente de la jalousie des autres. Ma se remémorait tout le temps cette première semaine de juillet, comment elle avait couru dans Port-au-Prince, dépensé ses économies durement mises de côté, pour trouver à Fredo des chemisettes, des chaussettes, une paire de chaussures, des chemises, afin qu'il ne soit pas obligé de partir avec les t-shirts pourris qu'il portait à longueur de journée. Claudie était le meilleur ami de Fredo. Il habitait à Carrefour-Feuille. Lui aussi pratiquait l'athlétisme. Ça avait même renforcé leurs liens. Ils allaient courir comme des dératés dès 5 heures du matin, sautant tous les obstacles qu'ils pouvaient, des piles d'immondices aux vieux moteurs de voitures abandonnés, en passant par les paniers des marchands qui les menaçaient en leur lançant des pierres et les traitaient de tous les noms. Claudie était très mince, encore plus que Fredo, si bien que Ma doutait qu'il n'ait que les 17 ans qu'il affichait. Il en paraissait 13 et surjouait son assurance pour paraître plus vieux. Il envisageait de rester aux États-Unis où vivait sa marraine qui n'avait pas d'enfant et encourageait ouvertement Fredo à en faire autant. Secrètement, Ma souhaitait que ce fût possible. Pourtant, elle aussi, elle avait envie de quelqu'un dans un pays étranger. Cela donnait espoir, cela permettait d'imaginer dans un de ces pays lointains, beau, riche, la vie qu'il pourrait avoir, il serait plus facile de gagner de l'argent. Ma en était certaine. Partir voulait dire améliorer sa vie, celle de sa mère, celle de sa grande sœur. Félicienne, la voisine du bout de la rue, recevait, au moins tous les mois, un transfert de son fils Baptiste qui vivait à New York. Elle avait même été le visiter et elle parlait de cette ville en disant des choses à peine croyables. Jamais de blackout, toujours de la nourriture plein le frigo, des routes suspendues, des immeubles qui touchaient presque le ciel. Elle marchait encore le nez en l'air 4 ans après en être revenue. C'est aussi la flamboyance, la fierté que l'on va chercher dans ces pays-là, pensait Ma. Et Fredo était la seule chance pour elle de s'y rendre. Elle l'avait accompagné jusqu'à l'aéroport. Il ne s'était pas dit grand-chose dans le bus. Cela aurait été difficile, la musique était trop forte dans ce véhicule. Les haut-parleurs résonnaient dans son cœur. C'est elle qui traînait la valise. En fait, Haïti n'avait obtenu aucune médaille. La plupart des athlètes avaient choisi de ne pas revenir. S'étaient-ils seulement concentrés sur ce qu'ils étaient partis faire ? Cela n'avait servi à rien de garder leur passeport. C'était arrivé tellement de fois. La fédération avait choisi de faire silence, Ma aussi. Elle n'avait eu aucune nouvelle de Fredo. Elle se disait « Fredo est bien là où il est ». Et c'est ce qu'elle répondait quand on lui demandait des nouvelles de son fils. Elle le pensait sincèrement. Il ne pouvait qu'être bien, même s'il ne donnait aucune nouvelle, comme s'il avait effacé son passé. Il était bien. Donc Fredo a disparu, enfin Fredo est parti. Il reviendra, non pas comme un oncle d'Amérique, mais comme une pauvre épave à charge de sa mère, puis de sa nièce. Et quelques autres souvenirs d'enfance sont évoqués au fil des pages par Cécé, notre Célia.
Célia, Cécé. On me dit souvent que c'est un joli prénom. J'ai eu 20 ans il y a 3 mois. Cécé, Célia, je suis une fille avec une histoire très ordinaire. Ma mère fut ma grand-mère. De famille, je n'ai eu qu'elle, jusqu'à ce que Fredo revienne de voyage. Mais il sera toujours plus ou moins un parent lointain, tonton, comme ses cousines de grand-ma qui arrivaient de Maniche, non loin de la ville d'Écaille, dans le sud, quelquefois hésitantes, ayant perdu le fil de leur relation avec cette parente qui s'était installée dans la capitale, y avait bâti une maison. Je suis allée à l'école très tard. Ma avait peur que les autres enfants ne me cassent en deux ou en plusieurs morceaux. Je crois qu'elle voulait me garder auprès d'elle le plus longtemps possible, quitte à ce que je n'aille pas du tout à l'école. Je l'entendais dire aux voisins qui s'étonnaient que je n'ai pas commencé la petite école. Cécé est une enfant malade. En réalité, elle pensait que l'école était un lieu de perversion, tout en souhaitant que je devienne médecin. C'est à l'école que ma mère avait rencontré ceux qui l'avaient entraînée dans l'alcool et la drogue. J'avais aussi peut-être hérité des mauvais penchants de ma mère qui, elle, les tenait forcément de son père. Moi, je me sentais très bien. Je comprenais tout. Je connaissais tous les gros mots et pouvais choquer n'importe quel adulte, même Laurette, la folle de la cité, qui insultait tout le monde et se déshabillait entièrement quand on la fâchait, ou tout simplement parce qu'elle était dans un mauvais jour. Grand-ma se résigna à m'emmener trouver maître Jean-Claude, qui dirigeait la petite école primaire à l'entrée de la cité. Maître Jean-Claude, tout le monde l'appelait comme cela, me demanda d'un air ridicule en me montrant des dents longues, noircies par le tabac et la mauvaise hygiène, « Comment t'appelles-tu ? » J'ai eu envie de lui dire quelque chose sur sa mère, le gros mot le plus courant de la cité, mais le regard de grand-ma m'en dissuada. Je balbutiai « Cécé, Célia Jérôme ». Il ajouta qu'il était temps d'apprendre à lire, à écrire et à parler français. Il s'était mis à débiter plein de choses en français auxquelles Ma et moi ne comprenions rien. On s'en foutait, heureusement. Moi, Cécé, j'avais pour la première fois un livre et un cahier. J'étais entrée directement en cours préparatoire. J'étais la plus âgée de la classe, mais je paraissais plus jeune. Les autres étaient plus avancés que moi. Ils lisaient proprement leur alphabet. Moi, non. Ma préoccupation, pendant toute la première semaine, fut d'essayer de toucher le sol avec mes pieds pendant que j'étais assise sur le banc. C'était la première fois de ma vie que je devais rester dans la même position durant tout ce temps-là. Je m'ennuyais. Il fallait bien que je trouve quelque chose à faire. « Cessez ces lires. Grandma le disait, les larmes aux yeux à ses clients. J'avais mis tellement de temps avant de pouvoir le faire qu'elle avait raison d'en être émue. Ma avait acheté un téléviseur. Il était plutôt petit. Je passais beaucoup de temps devant, notamment à regarder des vidéoclips. Ma m'impliquait très peu dans le commerce de la nourriture. Je devais étudier, me préparer à devenir médecin ou agronome. À 13 ans, j'ai participé à une manifestation. Maradona disait qu'on ne pouvait pas se laisser voler les résultats des élections. Je n'avais pas l'impression que l'on m'avait volé quoi que ce soit. Je n'avais pas suivi l'actualité des élections, mais je m'étais bien défoulée sur le boulevard au milieu de gens que je ne connaissais pas, qui étaient très joyeux ou très sérieux, scandant « C'est la victoire du peuple, nous voulons de ce président-là ». Ils avaient cassé des pare-brises, des devantures de magasins, mis à sac quelques petits commerces, sûrement de gens complices du vol de la victoire du peuple. « Cette fois-ci, c'est le bon », avais-je entendu une dame dire. « Ce pays a beaucoup trop attendu. Ce président va enfin nous sortir de la misère. » Je n'aimais pas étudier. Je regardais, autant que me le permettait le rationnement de l'électricité, des feuilletons latino-américains. À l'école, avec les filles, on discutait beaucoup de ces films. Je m'étais inscrite sur Facebook. Ma ne pouvait pas m'acheter d'un téléphone intelligent. Je lui en voulais pour cela. Enfin, un peu. C'est qu'elle ne comprenait pas que j'avais besoin de communiquer, de voir le monde. Elle avait le même téléphone que moi, un modèle basique qui ne servait qu'à parler. J'allais à un cybercentre situé près du Théâtre National, bâtiment qui côtoyait un spectaculaire égout à ciel ouvert où stagnaient des milliers d'assiettes en polystyrène et de bouteilles en plastique. La connexion était mauvaise et je n'avais pas de photos de moi à poster, je me contentais de liker. Les statuts et photos de mes camarades, de liker les statuts et photos de mes camarades, et d'ajouter mon fiel dans les débats où tout le monde se lâchait et rivalisait de méchanceté et de bêtises. J'avais repris la sixième. J'ai difficilement passé la cinquième. J'ai arrêté l'école à la mort de grand-ma. Personne ne m'a demandé pourquoi je n'y allais plus. Tout le monde s'en foutait, en fait. Ils ont peut-être aussi supposé que c'était à cause de l'argent. C'était vrai. Je n'aurais pas pu continuer à payer les 600 gourdes que coûtait l'écolage chaque mois, mais j'en avais assez aussi.
Oui, Célia n'a jamais beaucoup aimé l'école, en effet, et on peut se demander ce qu'elle va devenir ou même ce qu'elle devient au quotidien dans cette vie où il faut en effet un minimum d'argent pour manger chaque jour, un minimum d'argent pour payer l'alcool de Fredo, puisque l'oncle est toujours là. Et on commence à se poser des questions sur sa vie. Donc, Émilie Prophète imagine que cette fille va continuer comme ça à vivoter. Et elle nous donne des images de sa vie au fur et à mesure que cette vie se poursuit. Elle nous donne des images donc de la cité de la puissance divine. Certaines des maisons n'avaient pas été compliquées à construire. De la tôle, du bois, des bâches, et le tour était joué. D'autres, par contre, étaient impressionnantes, construites avec des matériaux durs sur plusieurs étages. Parmi elles, il y avait des hôtels de passe, des boutiques de prêteurs sur gage. D'autres, au fronton desquels étaient écrits « bazar », mais aussi des morgues, des écoles, des églises. On trouvait de nombreuses confessions à la cité de la puissance divine. Et toutes les heures du jour et de la nuit, des gens priaient ou se relayaient dans des temples improvisés dotés d'incroyables systèmes de sonorisation pour psalmodier, chanter, comme si le bruit ne devait jamais cesser. L'église la plus proche de chez nous, dirigée par le pasteur Victor, c'était là que se rendait Ma, mais il y en avait bien d'autres. C'est vrai que la cité de la puissance divine, c'était d'abord du bruit. Du bruit, des bruits qui couvraient d'autres bruits. Des projectiles tirés en plein jour pour effrayer un commerçant qui ne voulait pas s'acquitter de l'arnevance envers le gang. Des postes de radio dont le volume était mis à fond, chacun émettant un programme différent. Des voisins qui s'insultaient, des cris d'enfants, des gosses en train de courir, oui, qui jouaient maigres, handicapés souvent parce qu'ils avaient eu des accidents mal réparés. Et aussi des adultes qui avaient trop bu, trop fumé, qui subissaient la cruauté de la vie et qui se défoulaient en hurlant. Ah là là, des jeunes filles qui devenaient des jeunes femmes qui priaient à longueur de journée et qui affirmaient très sérieusement avoir été engrossées par le Saint-Esprit en racontant même leurs songes à des gens ébahis qui auraient cru n'importe quoi, tant ils étaient paumés, désespérés. Des fous, des alcooliques, des drogués, des éclopés du dernier tremblement de terre, des victimes des gangs, des aveugles. Des prédicateurs qui serraient les mains dans la rue plusieurs fois par jour, qui s'arrêtaient près des marchands ambulants, ces marchands vantant haut et fort leurs produits. Et puis les chiens maigres qui se rassemblaient, flairaient partout, se désassemblaient et qui, par habitude, par désœuvrement, se faisaient caillasser par les habitants. Mais tout de même, on pouvait échapper à ça. On verra tout à l'heure comment. Je vais vous envoyer la musique, la pause musicale. C'est Haïti chérie. C'est une version assez récente, chantée par une femme. Donc, quelques minutes de plaisir à Haïti en attendant des images encore de Port-au-Prince et de la cité de la puissance divine.
Moi, vin saisi sans parole, souffle coupé, qu'est moins fun, posez-y-moi, posez-y-moi. En carton, yo, palais, lui dit où m'éviter, ou pas tes doigts te lever, ou pas tes doigts te t'aimer, c'est fierté ou gagner, pas laisser yo blesser, pas laisser yo blesser. Nous séons celle père descend en bacal à ma chambre. Et puis moi, c'est même bitin, c'est même bitin. Ni sac à faire plein des autres pour nous pas vivre ensemble. Et vous et moi, séons des lotes, séons dans l'ost. Mais la toute bitin brillée, faut non fin calculé, faut yo apprendre peser. Bon, ça y est mauvais. Mais t'es en liberté. J'apprends ton résilier. J'apprends ton espérer. Haïti chérie, la vie pas finie. Haïti chérie, changement qu'a fini. Haïti chérie, la vie pas finie. Haïti chérie.
Si l'amour qu'a ouvert porte, c'est que les mois qu'a présente.
Ou dessine-moi, ou prends-moi, ou prends-moi.
Jacques Mel Thomas, 5-15 coffres. L'amour qu'a monté mon.
Pour ça qui près, pour ça qui loin. En sa tête qu'a chargé, quelqu'un qu'a fatigué. Mon saillot pleuré, je me la capaisé. Mais continuez à marcher, mes jours la qu'à rêver, mes soleils j'ai monté.
Haïti chérie, la vie pas finie. Haïti chérie, change mon cabinet.
Haïti chérie, la vie pas finie.
Haïti, pas toujours facile à vivre, donc. De nouveau, Emily Prophète nous donne des images de la vie de Célia, et tout de même, de temps en temps, dans la vie de Célia, il y a des ouvertures. Par exemple, ce jour où elle sort de la cité pour se rendre au centre-ville.
Pour vivre dans la cité, il fallait croire très fort au présent et l'inventer à chaque seconde. Au-delà de l'arcade, il y avait le reste de la ville, un endroit plein de tentations que je me promettais d'explorer de bout en bout. Je suis une fois allée en promenade avec ma classe de 6e à la montagne. Il y avait des endroits pas loin où il fait frais et où il y a de belles maisons, des espaces verts. Il n'y avait presque pas d'arbres dans la cité. Voisine Fanny recyclait des pots de peinture qu'elle gardait sur sa galerie et dans lesquels elle faisait pousser des fleurs, du basilic et de la citronnelle. Elle préparait des infusions pour soigner son chagrin. Je connaissais bien le Champ de Mars et ses environs. J'avais souvent échappé à la surveillance de grand-ma, dont la plus grande crainte, ces 20 dernières années, avait été que je dévie comme ma mère pour aller m'y promener avec des camarades de classe qui voulaient échapper à un cours de français ou de mathématiques. La marche était plutôt longue et il faisait toujours chaud, mais cette liberté nous ravigotait. Nous partions voir un ailleurs très proche qui nous semblait pourtant loin. On entrait même au supermarché situé à côté du Théâtre Rex, éventré par le tremblement de terre de 2010 et à l'intérieur duquel on balançait toutes sortes d'ordures. Nous nous extasions devant les confiseries, les boissons fraîches, les fruits, sans pouvoir en acheter. Les enfants qui venaient de la cité étaient sûrement étranges. Ce devaient être nos chaussures plus sales que celles des autres, nos vêtements, nos gestes, parce qu'à chaque fois que nous entrions dans le supermarché, un monsieur aux larges épaules habillé en kaki nous suivait en nous regardant d'un air sévère. Je suis allée au carnaval aussi, une fois, avec la complicité de Natacha qui avait assuré à ma grand-mère que nous devions absolument faire un devoir qui nécessitait que l'on utilise des dictionnaires et des cartes géographiques qu'elle possédait chez elle. Grand-ma nous avait regardé avec inquiétude jusqu'à ce que Natacha lui rappelle que sa mère et elle fréquentaient la même église. Ce carnaval était beau. J'y ai bu ma première bière. Pendant des jours, j'en avais eu l'amertume dans la bouche. J'avais 16 ans.
Eh oui, ça arrive quand même que Célia aille prendre l'air ailleurs. Mais finalement, ces intermèdes positifs sont très rares. Et par contre, on va avoir un flashback plutôt sombre avec celui du retour de Fredo. Puisque Fredo, on l'a vu, n'a pas réussi aux États-Unis, il va réapparaître un jour. Fredo n'avait pas donné de nouvelles pendant 12 ans. Pour moi, il n'était que le petit garçon debout à gauche de grand-ma dans la photo de famille. Quand grand-ma l'évoquait, son regard se perdait dans le vide, comme si elle essayait de l'imaginer dans ce lointain, ce grand pays de justice et d'infinies possibilités. Il n'avait qu'un tort, ne pas avoir donné de nouvelles à sa mère. Il ne savait même pas qu'il avait une nièce. Nous avons tous besoin d'une famille, pourtant, disait Emma avec des trémolos dans la voix. Tonton était réapparu un jour devant la petite galerie pendant que grand-ma coupait de la banane plantain et des patates douces pour la fritaille du soir. Elle avait bien remarqué qu'un corps lui barrait la lumière du jour, mais elle n'avait pas envie de relever la tête. Elle risquait de ne pas être prête avant que les premiers clients arrivent si elle se laissait perturber par un fou ou un voisin qui venait commenter avec elle la dernière fantaisie d'Élise ou les prix des produits de première nécessité qui avaient encore augmenté. Pourtant, l'ombre était restée sans bouger pendant de longues minutes, sans rien dire. Elle avait fini par se résigner à regarder cette personne. C'était un monsieur très maigre, avec des vêtements chiffonnés, une grande coupe afro, une barbe fournie, trop longue, des chaussures éculées et une valise, couleur fuchsia, toute déglinguée. Et cette personne la regardait avec tendresse. Ma s'était mise à pousser des cris qui ressemblaient à des jappements. J'avais laissé tomber mon livre de science que j'étais en train de lire. J'étais sortie en vitesse et j'avais vu le monsieur que j'avais pris pour un de ces fous de la cité. Mes grand-mères avaient arrêté de crier et elle disait dans un souffle « Fredo, Fredo !» Et des voisins étaient accourus pour voir ce qui se passait. Parce qu'au moindre bruit, dans la cité de la puissance divine, il y avait toujours des accroupements qui se créaient, sauf quand on tirait. Fredo s'était approché, il avait posé sa valise et mis une main sur l'épaule de Ma qui pleurait à chaudes larmes. Les gens semblaient incrédules. Ce n'était pas dans cet état-là que l'on revenait de l'étranger après toutes ces années. Christa avait dû raconter n'importe quoi. Ce clochard devait sortir tout droit de prison ou de l'asile des fous. Fredo m'avait souri, un sourire triste, fané, doux. Il avait des plis autour des yeux et paraissait vieux et fatigué. Bah s'était levé, lui avait préparé une assiette de riz et lui avait dit doucement qu'il fallait attendre, que la viande n'était pas prête. Mais il avait mangé avec appétit, il devait avoir très faim. Et puis il était entré dans la petite chambre du fond, comme s'il l'avait quittée la veille, avait posé par terre sa vieille valise et dormi pendant 2 jours et 2 nuits. Tonton n'était pas un criminel, ni même un voyou. C'était un coureur raté qui n'avait pas su franchir les obstacles qui avaient été érigés devant lui dans un pays où il n'avait pas su prendre pied. Il avait raté son entrée. Il n'avait pas gagné de médaille. Il avait été minable, Claudie aussi. Il n'était même pas au niveau des autres athlètes. Ils étaient probablement trop hantés et trop fatigués par cette vie qui les attendait en dehors du village olympique. La lumière, toute cette lumière, oui, elle était à portée de main, mais pas pour eux. Il avait toujours refusé ensuite de parler des années passées aux États-Unis. Et sa mère avait compris qu'il valait mieux ne pas insister. Jusqu'au décès de grand-ma, elle refilait de temps en temps des gourdes dans sa main. Vous savez, les gourdes, la petite monnaie locale. Et il partait saoulé. Il mangeait une fois par jour, lentement, le soir. Il avait la lèvre inférieure brûlée par l'alcool. Et il buvait surtout des alcools trafiqués, des trempés fabriqués dans la cité. Alors maintenant, grand-ma était morte, c'était moi qui donnais un peu d'argent à tonton. Il ne me le demandait pas, mais comment aurait-il fait sinon? Je continuais à lui donner à manger et je lui donnais un peu d'argent pour aller boire. Oui, la vie n'est pas drôle, en effet, ça continue à être plutôt inquiétant, d'autant que, comme on l'a vu au début, la vie de la cité, elle est surtout rythmée par la guerre des gangs. Et la guerre des gangs reprend.
Ça tirait de partout. Joël avait tué Freddy. Il avait déchargé sur lui son AR-15. Freddy était mort et les autres continuaient à lui tirer dessus, expiant leur rage, leur jalousie. Les frustrations accumulées au cours de ces longs mois pendant lesquels ils avaient subi ces caprices de sociopathe. Il n'était qu'un lambeau quand on l'avait jeté dans un trou, à même la terre, près des cactus en forme de candélabre, au bord du sentier qui menait près d'un des rares espaces vides de la cité que tout le monde appelait le terrain de basket. Joël avait mal pris que Freddy ait frappé Pierrot jusqu'à lui casser un bras. Il l'avait surpris, assoupi, alors qu'il était de garde. Il lui avait enlevé son arme et s'était mis à lui donner des coups de pied, à lui hurler des injures à propos de sa mère. Joël avait voulu s'interposer. Le petit saignait de partout et demandait pardon. Freddy l'avait giflé en présence des autres et traité de minable, de crétin. Joël lui en avait voulu. Il avait eu envie de le tuer. Il fallait qu'il le tue. Il en avait rêvé toute une semaine. Il l'avait finalement eu par surprise, de sang-froid. Il racontait à tout le monde l'avoir vu gigoter dans son sang comme un animal, avoir finalement décelé la peur dans ses yeux, lui qui avait été pendant près de 12 ans la terreur de la cité, et même au-delà. Excusez-moi. Lui qui faisait chanter des ministres de la République, exigeait paiement pour ne pas bloquer les axes routiers menant dans le sud du pays, pour calmer les adversaires politiques. Je n'avais presque pas reconnu Joël quand je l'avais croisé après qu'il s'était auto-intronisé chef. J'étais sortie acheter du pain et de la bouillie de maïs au carrefour. Mon regard avait croisé le sien. Il avait détourné la tête. Il était entouré d'une dizaine de jeunes hommes armés. Je les connaissais tous. Ils avaient grandi dans la cité. Ils venaient souvent acheter à manger chez grand-ma. Pierrot avait une arme de poing qu'il tenait dans sa main gauche, son bras droit était en écharpe et sa tête nouée d'un foulard rouge à motif, ceux que l'on trouvait partout, surtout en période de carnaval. Il avait fait semblant de ne pas me voir.
Donc la vie continue avec les gangs qui se succèdent. On en est au 3e chef de gang qui, comme vient de nous le dire Célia, s'intronise lui-même. Alors qu'en effet, leur succès vient simplement du fait d'avoir tué le chef précédent. Et on va voir évoluer peu à peu, jour après jour, la vie de Célia dans les quartiers. On nous reparle ici de la vie des quartiers. Je revenais de chez le pasteur Victor, où j'avais passé un moment, afin de pouvoir recharger la batterie de mon téléphone. Je me promenais tout le temps avec le chargeur. La batterie était vite à plat. J'étais tout le temps sur les réseaux sociaux. L'électricité était rare. Le réseau était constamment en panne à cause des prises illégales comme celles de chez moi. Du plus loin que je me souvienne, nous avons toujours eu l'électricité à la maison sans l'avoir jamais payée. Andrise, l'épouse du pasteur, m'avait félicité pour mon nouveau téléphone. Je n'avais pas osé lui dire que j'avais faim. Ben oui, forcément. J'avais payé le téléphone au lieu d'acheter à manger. Je lui ai dit que j'allais bien et à l'époque, grand-ma avait laissé quelques gourdes. Ça suffisait encore pour un petit moment. La femme du pasteur m'a dit très sérieusement qu'elle priait pour moi tous les jours. Alors, les cités, bah oui, quand on sortait même de la nôtre, il n'en manquait pas. Des ghettos, les uns à côté des autres, des cloaques, avec des habitations sauvages, dont les habitants entraient dans des affrontements absurdes et cruels, on l'a vu, dont ils ne connaissaient pas très bien les motifs, ou bien qu'ils avaient oublié tant ils étaient sans importance. Bethléem était la cité la plus proche de la puissance divine. Bethléem, c'était aussi le territoire ennemi, celui qui avait, la fois précédente, valu une alliance de courte durée entre Mackensen et Freddy. Mais les cités se gardaient à bonne distance les unes des autres, en principe. Tout le monde était armé et ils s'entretuaient, pour le plaisir, sous des prétextes farfelus. L'un des affrontements les plus sanglants entre eux avait eu lieu parce que Fanfan le Sauvage avait fait courir le bruit que les membres du gang de Mackensen étaient tous homosexuels. C'était pour eux la pire injure qui pouvait exister. Même les homosexuels étaient contre l'homosexualité. Personne ne pouvait expliquer rationnellement l'origine de cette détestation réciproque entre les cités Bethléem et la puissance divine. Certains osaient le jeu cynique de la comparaison entre les dégradations, la misère, la bravoure, la violence des gangs et la dimension des fesses des femmes. Bon, c'est pas gay, bien sûr, hein, cette guerre des gangs, mais on voit que Célia a un téléphone. Et de façon un peu surprenante, c'est ce qui va quelquefois donner un tour particulier et personnel à sa vie. C'est qu'avec son téléphone, peu à peu, elle devient influenceuse. Ben oui, influenceuse dans les cités ghetto. Et elle raconte, elle photographie et elle devient un lien entre sa cité et le monde extérieur. Elle va nous dire ça de façon un petit peu plus précise.
Ce téléphone est mon lien avec le monde désiré. Grand-ma écoutait beaucoup la radio, les nouvelles, de la musique locale. La télé n'était que pour moi. Depuis qu'elle nous a quittés, tonton et moi, je m'invente une vie sur Facebook. Je suis Cessez la flamme. Le nom m'était venu comme ça. Ce ne devait être qu'un jeu. Je disais vouloir mettre le feu partout, que c'était la seule condition à la rédemption des ghettos. Ma photo de profil était un selfie pris de près, les cheveux tirés en arrière. La bouche peinte avec un rouge à lèvres bleu que j'avais acheté au marché de Martissan. Juste le visage. Je ne montrerai jamais mon corps ingrat sans y être obligée. Beaucoup de ceux qui étaient en interaction avec moi sur Facebook me demandaient si moi aussi j'étais membre d'un gang. Je ne répondais pas. S'ils insistaient, je leur enlevais mon amitié. Cette façon mécanique d'enlever son amitié n'avait rien de choquant ni de brutal. On entrait en amitié de la même manière, mais c'était néanmoins sérieux. Nous jouions dans tous nos vies, celles rêvées, qui étaient nettement plus importantes et plus réelles que celles que nous vivions. Du feu, pour la purification, un nouveau départ. Du feu comme une menace dans des cités inflammables. Je ne savais pas bien écrire. J'étais moquée quelquefois pour les fautes que je commettais. Mais tout le monde en faisait, en créole ou en français. Le bilan de mes années scolaires, malgré les efforts de Ma, était fort discutable. Je n'avais pas l'impression d'en savoir plus que Soline, qui n'était pas restée plus de 3 ans à l'école. L'important, c'était l'impertinence, la radicalité. Je ne pensais pas à la moitié de ce que je postais. Le succès m'était tombé sur la tête. Je postais principalement des photos de plats que j'achetais chez Morel, de mes pieds, des rigoles de la cité, de cadavres que je croisais sur ma route. Les cadavres avaient beaucoup de succès. plus que les vivants. Il fallait du glauque, du violent. La faim, le choléra, les épidémies de rougeole ou de malaria, tout le monde s'en foutait. Rien de mieux pour attirer l'attention qu'un bon cadavre tout chaud ou tout pourri. Ce n'est pas l'odeur qui comptait.
Oui, donc en fait, cette violence de la société qui entoure les gens qui vivent justement dans les cités, c'est vraiment ce qui prime dans une grande partie de la vie de Célia. On a vu qu'il y a la vie rêvée sur les réseaux sociaux, et puis il y a la vie réelle qui, de temps en temps, la rattrape. Et cette vie réelle, par exemple, c'est le fait qu'un jour, le nouveau chef de gang, Joël, la convoque. Joël m'avait convoqué. C'est Pierrot qui était venu me chercher. C'était un samedi matin. Il n'était que 10 heures. Je dormais encore. Enfin, j'étais presque réveillée. Il y avait beaucoup de bruit, plein de gens qui passaient avec des seaux d'eau, qui riaient, parlaient fort. La musique des voisins qui était forte aussi et qui venait de toutes parts. Pierrot était devant la porte. Il portait des lunettes noires sur lesquelles était encore collée l'étiquette. Il ne devait pas les avoir depuis bien longtemps. Il portait aussi un maillot de corps bizarre avec des taches. Enfin, Ma aurait été dégoûtée, mais il avait par-dessus une chemise en jean ouverte, un pantalon bleu marine avec des grosses poches. On voyait bien son arme sous sa chemise. « Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que t'es venu faire à cette heure ? Tu dois me suivre. Quoi ? Le chef veut te voir. Va te changer. Pourquoi veut-il me voir ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Je ne sais pas. Va t'habiller. Je suis obligée de t'amener à lui maintenant. » Il était grave. J'ai eu peur. Je ne voulais pas qu'il le voie. Joël allait-il me tuer ? Enfin, je me suis changée et il a fallu marcher pendant une dizaine de minutes de chez moi à la base. Il n'y avait que les membres du gang qui pouvaient s'approcher de cette construction. Une grosse maison de 2 étages, en béton, inachevée, entourée de hauts murs en parpaing, encore non enduits de ciment. On avait dû me voir arriver de loin. Les hommes qui étaient là, les hommes aux vêtements chiffonnés, avaient entrepris de faire glisser le gros portail de fer de l'entrée. La cour était grande. Une grosse voiture, une grosse cylindrée de la marque Toyota était garée à côté de la maison inachevée. Le sol tout autour était mouillé. On venait de laver le véhicule. Le premier étage de la maison était encore en projet. Il n'y avait que des murs en attente d'un toit. C'est vrai que toutes les maisons en béton de la cité étaient comme ça, souvent, en attente d'un étage supplémentaire. Là, une terrasse très grande faisait face à la cour. C'est là que Pierrot m'a demandé d'attendre. Il s'était dirigé derrière la maison. Plusieurs hommes armés de fusils automatiques faisaient les 100 pas dans la cour ou étaient assis sur un muret qui entourait un arbre un peu effeuillé. Derrière ce muret, des dizaines de bouteilles de bière vides, des canettes de boissons, des vieilles assiettes en carton avaient été jetées pêle-mêle. Les hommes avaient tous l'air un peu fatigués, comme leurs chemises ou leurs t-shirts qui étaient troués par des brûlures de cigarettes ou délavés. Ils étaient jeunes, aussi jeunes, parfois même plus jeunes que Pierrot. Ils avaient les bras, le cou tatoué et beaucoup de muscles et beaucoup de dreadlocks. Tous un peu la même allure, nerveux, se raclant la gorge, crachant, avec un ou deux revolvers à la ceinture ou même une arme automatique à la main. On ne m'avait pas invité à m'asseoir, alors je suis restée là à attendre 45 minutes debout. J'avais chaud, j'avais le temps de penser à ma vie, j'avais l'estomac qui gargouillait. Enfin, à un moment, l'un d'eux m'a dit, arrivant de derrière, « Cessez la flamme ?»« Oui. » Alors, ils m'ont installé dans un bureau, sur une chaise de bureau, et Joël est arrivé. « Cessez la flamme ?»« Oui. » Il avait fermé les yeux à moitié, et il continuait de me regarder alors que je faisais un peu pivoter ma chaise. « Cessez, tu te rends compte que tu postes des messages ?» Et tu as parlé beaucoup plus de Fanfan le Sauvage que de moi sur Facebook. Est-ce que c'est un comportement acceptable pour quelqu'un qui vit à la cité de la puissance divine ? Que dois-je comprendre ? J'ai eu soudain envie d'aller aux toilettes. Je transpirais de partout. Je n'emmenais pas large. J'ai bien connu ta grand-mère. Ce sont des comportements qu'elle aurait désapprouvés. Tu es né ici. C'est nous qui te protégeons. Cela nous donne des privilèges. Nous faisons en sorte que les jeunes de cette cité s'en sortent, qu'ils aient de la dignité. Grâce à moi, personne ne nous harcèle plus, personne ne vient harceler les gens ici. Et toi, tu trouves le moyen de parler du cabot d'à côté, plus que de moi, plus que de ce que je fais. Il va falloir réparer tout ça. Tu vas parler de moi maintenant. Tu n'as plus le droit de parler du crétin d'à côté, du crétin de Bethléem, sauf pour le dénigrer. Pierrot et Cassave vont te refiler des informations de temps à autre sur tout le bien que nous faisons ici, à la cité de la puissance divine. Oui, répondis-je. Le chemin de retour a été long. Plus de 10 minutes à marcher sous un soleil assassin. J'avais faim, vraiment très faim. Et quand je suis rentrée, les voisins me regardaient avec curiosité. Toute la cité était au courant que j'avais été convoquée par le chef. J'avais fermé la porte en rentrant. Soline est venue frapper plus tard dans l'après-midi. Quelqu'un avait dû lui parler de cette convocation. Elle avait estimé important de laisser son commerce d'épices et de venir prendre des nouvelles. Je lui avais ouvert, mais au bout d'un certain temps. J'avais éteint le téléphone. Je découvrais qu'il pouvait y avoir du bon aussi à la déconnexion. Donc, en fait, c'est ça. C'est la vie de CC qui lui permettre de changer un petit peu. C'est son rôle d'influenceuse qu'elle accepte pour le chef de gang, pour Joël, qui va faire qu'à un moment, au moins, elle va devenir différente. Et nous allons nous quitter là-dessus, sur la vie pas drôle de la cité de la puissance divine, sur la vie pas drôle de Célia, mais sur l'espoir que peut-être les réseaux sociaux vont lui permettre d'avoir d'une vie différente. Alors, à nouveau, la musique d'Haïti, un peu plus rythmée cette fois. Et la prochaine fois, écoutez, je ne veux pas faire de promesses, on essaiera peut-être de vous emmener aux États-Unis. Au revoir.
Here's a song that comes from Tanzania. Malaika, nakupenda malaika. Malaika, nakupenda malaika. Ingekuwa I'm not afraid to die.